je laisse la parole à Ramim Mahmoudi, maître de conférence à l'Université d'Orléans.
Bonjour à tous, je suis Ramim Mahmoudi, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Alors, j'interviens aujourd'hui pour parler de technologie numérique et performance sportive. Alors, nous avons mené depuis 2 ans avec Eric Peset une recherche sur les technologies numériques connectées qui impactent la performance sportive des footballeurs professionnels. Dans ce cadre, nous avons mené 54 entretiens semi-directifs d'1 à 2 heures avec des acteurs du football professionnel, sportifs, coachs, mais également membres de staff, agents joueurs, journalistes sportifs. Et tout au long de cette présentation, j'essaierai d'alimenter les différents points abordés à travers les contenus des entretiens menés. Football de haut niveau et technologie numérique connectée entre excellencisme et perfectionnisme. Alors, qu'est-ce que l'excellencisme? Alors, l'excellence, on peut reprendre une devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Lorsqu'on parle d'excellence, on parle de dépassement de soi, on parle ici du fait de s'améliorer, de progresser, et on ne parle pas forcément de glorifier la performance ou la victoire, l'idée est plutôt de se dépasser. Alors que le perfectionnisme, ici, c'est une approche où on va plutôt s'orienter sur le zéro défaut, sur la recherche de la perfection, on va essayer de gommer toutes les imperfections, on va essayer de réduire les différentes variables, l'impact des différentes variables qui peuvent nuire à la performance du sportif. Et donc, nous allons voir tout au long de cette présentation que les technologies numériques connectées accentuent ce désir de perfectionnisme dans le sport de haut niveau et notamment dans le sport professionnel. Alors, avant d'aborder les technologies numériques, quelques éléments de contexte concernant les enjeux du monde du sport de haut niveau d'aujourd'hui, assez rapidement. Des enjeux tout d'abord politiques et géopolitiques. Alors nous l'avons vu en novembre, décembre dernier avec l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Nous le verrons prochainement avec les JO en 2029 en Arabie Saoudite et peut-être la prochaine Coupe du Monde de football en 2030 également en Arabie Saoudite. Donc il y a une certaine diplomatie sportive qui s'organise à travers le sport professionnel et ses compétitions mondiales. Des enjeux sociaux sur l'éco-responsabilité. On parle d'éco-responsabilité des enceintes sportives, l'éco-responsabilité liée au déplacement des supporters, mais également des joueurs. Il y a eu l'affaire des chars à voile cette année, notamment au Paris Saint-Germain, on s'en rappelle. Et des enjeux liés également à l'inclusion. Donc on voit les dirigeants des organisations sportives qui vont tenter de faire passer des messages, notamment en faveur dernièrement de la lutte contre les discriminations par les joueurs et par les nombreuses compétitions sportives. Et surtout des enjeux économiques. Donc des enjeux économiques qui sont énormes. Donc selon la dernière étude de la BCE 2021, la filière sport représente plus de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 2,6% du PIB de la France, sans compter ici l'intégration des revenus, sponsoring et droits TV. Alors, parmi les sports que nous connaissons tous, le sport le plus consommé au monde est le football. Quelques chiffres qui le montrent. 3,5 milliards de téléspectateurs uniques lors de la Coupe du Monde 2018, donc largement devant les Jeux Olympiques et la finale de Super Bowl. Et on peut également prendre un dernier chiffre, donc c'est le chiffre de l'audience TV de la finale de la Coupe du Monde 2022, France-Argentine, qui a battu un nouveau record malgré les critiques concernant l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, puisque il y a eu 1,5 milliard de téléspectateurs lors de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde 2022, soit 300 millions de personnes supplémentaires par rapport à la finale de la Coupe du Monde 2018. Un lien performance sportive et revenu évident. Donc là, je vous ai mis deux graphiques en comparant les droits TV des 5 grands championnats européens et ici que les droits TV de la première ligue sont largement supérieurs aux droits TV de de la Ligue 1, 5 fois supérieure. Et dans le championnat de France, nous voyons que les clubs les plus performants, donc Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dernièrement, sont les clubs qui génèrent le plus de revenus sponsoring. Donc un lien performance sportive et revenu qui est marqué. Le football, un monde ultra compétitif, compétition interne féroce, 2 millions de licenciés en France, 1800 jeunes de 15 à 19 ans au sein des 37 centres de formation, et 80% de ces jeunes ne deviendront jamais footballeurs professionnels. Il n'y a que 1300 footballeurs professionnels en France, donc issus des centres de formation français, mais également étrangers. Donc, dans le football professionnel, il y a une recherche de perfectionnisme, pardon. On va tenter de façonner les corps outils des jeunes footballeurs au service de la performance sportive. Et il y a une culture de l'hyperconnectivité qui s'est développée depuis quelques années et une datafication des comportements. Donc là, je vous ai intégré ici à la slide un morceau de discours d'un entretien qu'on a pu mener avec un coach de Ligue 1 qui met en évidence son besoin de pouvoir collecter des données concernant tous les comportements de ces joueurs, aussi bien les passes vers l'avant, les passes vers l'arrière, mais également les passes risquées, non risquées, pour éviter d'avoir des statistiques qui peuvent être inutiles ou faussées par rapport au désir du joueur d'avoir des statistiques plutôt positives. Des données de performance, comme l'a indiqué Benoît tout à l'heure, qui permettent d'améliorer les programmes d'entraînement, toujours pour viser la perfection. Donc on va chercher à individualiser les séances d'entraînement et on va utiliser la méthode de la data fusion qui a été notamment parlé tout à l'heure avec la plateforme Athlète 360 qui en est un bon exemple. C'est l'intégration des données collectées à partir des différents capteurs. On va utiliser donc des algorithmes afin de les intégrer sur une plateforme et on va en déduire, on va modéliser le corps du sportif et en générer des fonctionnalités qui vont être orientées vers la recherche de la performance sportive. Donc là aussi, on voit un morceau de discours avec un data analyst de Ligue 1 que nous avons pu interroger, qui nous explique que chaque entraînement est objectivé, donc chaque joueur connaît précisément la distance qu'il doit parcourir durant l'entraînement, le nombre de sprints également à réaliser, mais également le nombre de sprints, à ne pas dépasser, afin de ne pas générer derrière des blessures chez le joueur. Alors la fameuse déclaration de Kylian Mbappé cette année au mois de février 2022, après match aller perdu contre le Bayern de Munich, il nous dit que pour être performant, chacun doit bien manger, bien dormir. Alors c'est vrai que ça fait tout sourire, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que des joueurs, en tout cas certains joueurs, ont conscience que le fait de bien s'alimenter, d'avoir un bon sommeil, un sommeil de qualité, impacte directement la performance. Et nous verrons qu'il existe aujourd'hui des technologies numériques qui permettent de réguler ces variables et des technologies qui sont mobilisées par certains clubs. Donc on en parlera juste après. Le footballeur est devenu un individu digital et il a un double numérique, et je dirais même des doubles numériques. Un double numérique sportif. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran du site whoscored.com qui s'appuie sur des données Opta. Donc l'Opta, c'est une organisation qui collecte et une grande organisation collectrice de données sportives. WhoScored utilise ces données Opta afin de permettre à nous tous d'avoir accès aux données sportives liées à la performance de Kylian Mbappé. Et si on souhaitait également avoir une idée du double numérique, plutôt je dirais marketing de Kylian Mbappé, il suffirait d'aller se connecter sur sa page Instagram afin de visualiser les comportements qu'il peut avoir en dehors de ses temps sportifs, son mode de vie et également connaître son nombre de followers. Quelles sont les technologies numériques connectées, mobilisées? Alors, on a parlé énormément de technologies numériques connectées dans les clubs professionnels interrogés. Alors, principalement le GPS qui est utilisé aussi bien à l'entraînement que durant les matchs. Alors, énormément de verbatim concernant les GPS. Alors, tous les joueurs interrogés nous confirment bien que le GPS facilite ici le développement de leur performance. Alors ici, un ancien joueur de Ligue 1 de la Saint-Etienne qui s'explique que c'est un véritable travail d'orfèvre hein, de la part des membres du staff afin d'individualiser les entraînements. Mais également quelques limites sur l'utilisation du GPS. Alors déjà, d'une part, l'obligation de porter ce GPS. Donc on a pu entendre des coachs qui nous disaient qu'ils étaient obligés d'aller vérifier si le joueur portait bien le GPS. Il nous parle de joueurs un petit peu assistés, mais on pourra en parler avec M. Madimoigne tout à l'heure. Surveillance, donc vous avez des joueurs qui ont tendance à s'estimer sans cesse être surveillés, fliqués. Certains joueurs qui nous disent avoir une certaine appréhension durant les séances d'entraînement, une certaine crainte d'être recadrés à la fin de l'entraînement par le préparateur physique dans le cas où ils n'ont pas assez couru, pas assez intense. Et il y a également la question de la collecte des données hors temps sportif, lors des jours off, lors des jours test, mais également lors des jours de congé. Donc là, c'est un directeur de la performance d'un club de première ligue qui m'a indiqué qu'il avait tendance à inciter ses joueurs à suivre un petit entraînement physique durant leur congé, mais à continuer à porter le GPS et à continuer à transmettre ces données au club afin de permettre au club de préparer la reprise et d'individualiser les séances d'entraînement de reprise. Donc se pose la question de la collecte des données hors temps sportif. D'autres exemples de technologies numériques connectées. Alors, on a appris que certains clubs, alors surtout en Angleterre, utilisent une bague connectée. Alors je refais référence à la fameuse déclaration de Kylian Mbappé lorsqu'il disait il faut bien manger, bien dormir. Et donc la bague connectée qui est utilisée dans certains clubs de première ligue permet de mesurer la durée du sommeil, la qualité du sommeil et même la localisation du sommeil. Donc il y a un suivi ici de ces données qui est réalisé par le directeur de la performance. À ma connaissance, quand on ne nous a pas parlé de ce type d'équipement numérique en France, mais on pourrait bien dire que cela commence à se développer. Balance connectée, c'est plutôt habituel. Donc des directeurs, des préparateurs physiques qui vont faire peser leurs joueurs tous les jours, et certains qui vont même faire peser leurs joueurs trois fois le jour du match afin de s'assurer qu'ils ont bien le poids idéal pour démarrer la rencontre. Et enfin, ce qui est beaucoup revenu, c'est le cardio-fréquence-mètre, et plutôt utilisé en séance d'entraînement, beaucoup moins en match, puisque selon les retours que nous avons pu avoir, cela peut les gêner. D'autres technologies numériques connectées qui ne sont pas parquées. Donc aujourd'hui, vous avez des nacelles équipées de caméras qui filment en permanence les séances d'entraînement. Vous avez des drones. Donc là, vous avez des clubs de Ligue 1 qui commencent à s'équiper de drones qui vont filmer ici les séances d'entraînement. Alors le problème du drone, c'est la conciliation avec le climat. Et vous avez, alors là, je citais l'exemple de José Mourinho à l'AS Roma, qui a fait installer un écran géant connecté en plein milieu du terrain. Et donc, il reçoit les données vidéo de l'entraînement de manière instantanée. Il est capable de suspendre les séances d'entraînement afin de donner de nouvelles explications ici. Donc là, on le voit également avec le responsable de la préparation physique d'un club de première ligue qui nous explique que toutes les séances d'entraînement sont filmées, si bien pour l'équipe première que pour l'équipe réserve, mais également pour toutes les équipes de jeunes, toutes les séances d'entraînement sont. Les réseaux sociaux qui sont également ici des technologies numériques connectées. Alors, c'est un moyen pour les fans, pour les journalistes, pour les consultants de pouvoir faire un retour sur la performance des joueurs, aussi bien par de la notation que par de l'appréciation. Alors deux points ici. Premièrement, vous avez des joueurs qui nous disent être très sensibles à ce type de retour fait par ces acteurs. Alors certains coachs qui sont même obligés de recadrer les joueurs qui, à la mi-temps d'un match, vont tout de suite regarder les réseaux afin de connaître les premiers avis sur leur sur la performance qu'ils ont pu avoir en première mi-temps. Et deuxième point, vous avez des joueurs qui nous expliquent qu'ils sont impactés négativement donc par les critiques qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux, et donc là leur professionnel de Ligue 1 qui dit qu'il peut avoir la tête sous l'eau pendant quelques jours après avoir pris connaissance de ces des clubs qui se professionnalisent en matière de gestion, du management de ce secteur numérique. Je vous ai ici mis l'offre d'emploi data analyst qui est très récente au sein du RC Lens, qui a fini le second du championnat, qui essaye de se doter également de toute une équipe d'experts. Et des clubs, alors c'est un point d'interrogation que j'ai mis ici, des clubs dirigés par des algorithmes. Alors, trois exemples. Liverpool, en Angleterre, qui s'est associé à DeepMind, un assistant coach virtuel qui va soutenir les décisions prises par le coach sur le fait de titulariser ou pas les joueurs durant les matchs. Donc ça, c'est une aide à la décision pour le coach. Vous avez le club de Brentford. Alors, le club de Brentford, c'est un cas qui est assez intéressant puisque le club a été racheté il y a quelques années par Matthew Benham, qui est un ancien parieur sportif qui a fait fortune grâce à ses algorithmes, a décidé de racheter le club. Il a créé des algorithmes qu'il a fait tester dans un autre club danois qu'il avait également acheté, un club satellite. Et il gère toute la politique sportive de son club par, justement, ces algorithmes. Et il a réussi à faire progresser le club en montée de deux divisions. Et en France, cette année, on a l'exemple de Toulouse. On a un discours du président Damien Comoli qui est passé par l'Angleterre et qui était notamment à Liverpool et qui dit qu'il recrute essentiellement sur la data et qu'il s'appuie sur ses propres algorithmes afin de prendre les décisions concernant la gestion de son club. Alors, tout ce que je viens de vous présenter génère plusieurs questionnements en matière de pratique des acteurs du football professionnel. Alors, des questionnements concernant le recrutement, mais également des questionnements concernant la formation. Alors, concernant le recrutement, le premier questionnement, c'est concernant la fiabilité du double numérique et la manipulation potentielle des données. Et là, on a de nombreux exemples durant les entretiens. On a des préparateurs physiques qui nous disent « je suis capable de faire dire ce que je souhaite ». Et on a aussi des agents de joueurs qui récupèrent les données sportives du joueur et qui vont ensuite les retravailler afin de mieux valoriser leur joueur. Deuxième question, est-ce que lorsque l'on recrute un joueur, est-ce qu'on s'intéresse uniquement à son double numérique sportif ou est-ce que l'on prend également en compte son double numérique marketing afin de penser aux revenus sponsoring que l'on pourrait derrière en générer? La troisième question concerne l'invisibilité de certains comportements qui peuvent être néfastes dans cette recherche de la performance. Il y a un comportement qui est souvent revenu durant les entretiens, c'est la capacité à surmonter la pression qui est difficile à percevoir à travers justement ces données. Et des questions également concernant donc la formation. Tout d'abord concernant les habitudes des joueurs à porter ces objets numériques et à maîtriser leurs usages, maîtriser notamment l'usage des réseaux sociaux. Ça, c'est un véritable sujet qui est souvent revenu. La conciliation entre la normalisation des comportements des joueurs qui est souhaitée, en tout cas accentuée par cette technologie numérique, et comment faire pour laisser tout de même une place à la créativité du joueur dans son développement. Il y a un retour qui a été fait durant l'un des entretiens qui était très intéressant par un directeur de la performance qui nous disait « Je refuse que l'on voit apparaître dans le monde du football professionnel des oreillettes connectées que les joueurs pourraient porter durant les matchs, telles qu'on pourrait le voir dans d'autres disciplines, cyclisme, transport automobile, qui dicterait aux joueurs la manière dont ils devraient jouer. » Donc, comment faire pour utiliser ces technologies numériques à bon escient, normaliser les comportements, mais en laissant place à cette créativité qui est nécessaire. Bon. Troisième questionnement, c'est la mise en concurrence, qui est intensifiée par l'usage de ces nouvelles technologies. Donc là, il y a énormément de retours sur ce point avec des coachs, des directeurs de la performance qui vont mettre en place des classements du premier au dernier. Ils vont transmettre ces classements sur des groupes WhatsApp. Même un coach qui nous racontait qu'il avait l'habitude, lui, d'afficher le visage des trois moins performants de la séance d'entraînement de la veille sur les portes du vestiaire afin que tous les joueurs, le lendemain matin, puissent visualiser les joueurs les moins performants. Donc la question, c'est comment ces joueurs vivent cette mise en concurrence et comment peuvent-ils porter cette mise en concurrence qui est très, très intense. Quel questionnement, la collecte des données, alors ça je l'ai dit, hein, la collecte des données hors temps de travail, ça c'est une véritable question des juristes. Et cinquième question, c'est l'atteinte des limites physiques et psychologiques et le fait que oui, cela peut générer des risques de blessures et de fragilité. Et malgré toutes ces nouvelles technologies, on observe toujours des blessures chez des footballeurs professionnels et des blessures qui peuvent perdurer, des fragilités qui peuvent amener le sportif à mettre fin à sa carrière. Ça aussi, c'est une question qui peut être intéressante à creuser. Voilà pour ma présentation.
Merci Ramim, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université d'Orléans, qui complète les propos de Benoît. Normalement, nous avons Aziz Madimogne qui est connecté.
Oui.
Le coordinateur sportif au FC Lorient.
Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pas de souci de réseau ici.
On t'entend.
Voilà. Enchanté. Merci pour l'invitation. Désolé de ne pas être présent sur place. Mais...
Est-ce que tu as une caméra, Aziz ? On te voit. On va partager l'écran.
Bonjour, monsieur Madimogne. Peut-être déjà vous présenter un petit peu, présenter votre parcours et votre poste actuel.
Ouais, bah alors moi je suis Aziz Madimogne. Ça fait. 9 ans, enfin, je vais démarrer ma 9e saison à FC Lorient en tant que aujourd'hui coordinateur du projet sportif. Auparavant, moi, j'étais un ancien joueur de foot, issu d'un parcours universitaire, d'un master en management du sport à l'Université de Nantes, en parallèle de mon parcours de footballeur. Et puis après, très vite à côté de ça, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et j'ai pu intégrer le centre de formation du Stade Rennais à 26 ans, où j'ai arrêté de jouer assez rapidement. Et puis ensuite, intégrer le FC Lorient. Alors, plusieurs étapes dans mon parcours, l'encadrement des jeunes en premier lieu, et puis ensuite tout ce qui était plutôt socio-éducatif, et puis ensuite le recrutement. Et pour finir, diriger tout le pôle sportif au FC Lorient aujourd'hui. Donc, Ramin, c'était très intéressant ta présentation. Ça vient présenter, entre guillemets, tout ce qu'on est capable de faire et ce que nous, on peut faire ici en interne. Donc, c'est la bonne passerelle. Voilà, on va dire.
Très bien. Ça tombe bien, j'ai pas mal de questions.
Ouais.
J'ai des questions à vous poser. Vous vous occupez du recrutement au FC Lorient. Oui. Je vais expliquer en même temps comment est-ce que vous identifiez les cibles, est-ce que vous vous appuyez sur un réseau de détecteurs sur le terrain ou d'agents sur le terrain, et derrière est-ce que vous utilisez justement le sujet du jour, hein, les données sportives.
Alors pour ce qui est du recrutement, il y a deux secteurs dans un club de foot. Il y a le secteur centre de formation ou académie, où on intègre les joueurs dans notre club à partir de l'âge de 16 ans. Et puis ensuite, il y a le secteur professionnel, donc l'équipe Fagnon, où là, les joueurs sont utilisés directement pour l'équipe professionnelle. Donc au niveau des cellules de recrutement, elles sont organisées comme suivant. Enfin, au niveau du centre de formation, il y a 3 recruteurs à temps plein qui sont répartis sur la Bretagne, on va dire, et ensuite le Grand Ouest, Pays de la Loire, région Centre Normandie, et puis l'Île-de-France. L'Île-de-France, pourquoi ? Parce que c'est considéré comme un bassin producteur de grands talents, on va dire. Et puis ensuite, dans le secteur professionnel, il y a 4 recruteurs plus un analyste vidéo. Voilà. Au niveau des jeunes, c'est très compliqué d'utiliser la data parce que les matchs, il y a peu de matchs qui sont filmés. Il y a une amorce qui est établie avec une société en ce moment qui s'appelle Eyeball. Ils commencent petit à petit à filmer les matchs de jeunes, mais pour le moment, pas de possibilité d'utiliser la data. Donc, c'est souvent de l'observation live de nos éducateurs ou de nos recruteurs pour aller voir les joueurs et puis faire connaissance avec les entourages, les clubs et puis les entourages, famille en particulier. Et puis ensuite, au niveau des professionnels, on va dire qu'on utilise un peu le système de Brentford. C'est-à-dire qu'on a créé notre propre base de données, Brentford et Toulouse aussi, un mixte, notre propre base de données. Et ce sont l'analyse de ces données qui nous font nous déplacer sur les terrains. Voilà. Après, sur l'élément clé, hein, que ce soit au niveau de la performance, au niveau de la sélection des joueurs, ça reste quand même qui sont ces joueurs, donc la personnalité. Donc qui sont ces joueurs et qui sont ces athlètes, le lien avec la pratique de leur activité.
D'accord. Et les algorithmes que vous avez créés, vous avez créé en interne ou vous êtes passé par peut-être des experts à l'extérieur du club?
Alors on a.
Quels sont les acteurs qui entrent justement dans cette construction d'algorithmes?
On a un fournisseur qui s'appelle StatsBomb avec qui on travaille. Il y a la Ligue professionnelle et la FIFA qui fournissent des données également. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Et ensuite, on travaille avec un data scientist, 2 data analystes et un responsable CRM data, qui sont eux en charge de créer nos algorithmes pour pouvoir ensuite analyser tous les joueurs de tous les championnats d'Europe sur plusieurs divisions. Et puis, dès qu'on a nos petites alertes bien spécifiques par rapport à notre projet de jeu, on peut se dire si ce joueur-là peut correspondre au type de joueur qu'on recherche. Et dans ces cas-là, on va aller voir ensuite en live le joueur en compétition, en situation de compétition d'abord. Et puis ensuite, si le joueur nous intéresse, on va aussi le voir sur les sessions d'entraînement.
Quels sont les indicateurs de performance sur lesquels vous vous appuyez principalement?
Ouais, les indicateurs de performance, ils sont assez synthétiques. Alors attendez, est-ce que je peux partager l'écran? Donc ça c'est la plateforme qu'on utilise. Donc on regroupe tout sous Power BI, Microsoft Power BI. Voilà, toutes nos données club sont ici, sportives, athlétiques, recrutement, tout est ici. Et donc en fait, sur les données telles qu'on les traite, bon, par exemple pour les attaquants, il y a tout ce qui peut être au niveau capacité athlétique des joueurs. Dans les capacités athlétiques, par exemple, je vais cliquer sur ce joueur, Mbadieng. Donc nos données, bon, c'est surtout au niveau des attaquants. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer sur les différents éléments qu'on ressort. Donc, on va prendre l'attaquant, capacité athlétique, l'activité défensive, la technique, la relance et la offensive. Les défenseurs centraux, pardon. Capacité athlétique, activité défensive, technique, relance, rapport offensif. Et donc après, nous, tous nos data ont référencé des points précis qui nous intéressent sur chaque poste. C'est-à-dire sur les capacités athlétiques, c'est les distances à haute intensité, les distances à très haute intensité, le nombre de sprints, les vitesses max. Voilà, et ce qui pouvait être important pour nous. Voilà. Et ça, dans chaque secteur. Donc, ils sont différents en fonction des postes.
D'accord, c'est bien. Et est-ce que vous vous intéressez également, tout à l'heure, vous parliez de personnalité. Comment est-ce que vous arrivez justement à percevoir la personnalité? Comment est-ce que vous pouvez, derrière, savoir si un joueur peut potentiellement poser un problème dans la gestion du groupe? Est-ce que ces éléments, forcément, ne sont pas ici sur votre plateforme? Comment est-ce que vous arrivez à percevoir ces éléments?
Alors, la personnalité, elle est faite sous forme d'entretien. On a aussi un responsable de la méthodologie et puis un préparateur mental. Enfin, on n'aime pas trop dire ça ici, mais deux personnes qui travaillent exclusivement sur le recrutement et qui font des entretiens avec les joueurs qu'on a ciblés. Voilà. Et ensuite, on a l'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle qui s'appelle Ingo Goetze, qui est psychologue, donc il est entraîneur et aussi psychologue. Donc en fait, on essaye de profiler au maximum les joueurs sur la base d'entretiens et de plusieurs entretiens pour savoir exactement qui ils sont et s'ils auront la capacité de s'adapter à notre environnement.
Tout à l'heure, je parlais de réseaux sociaux. Est-ce que vous allez jeter un œil sur...
Exactement. Exactement. On a un recruteur qui est spécialisé en réseaux sociaux et son travail, lui, c'est de regarder exclusivement le contenu des réseaux de ses joueurs. Ouais. Tout à fait. C'est très important.
Enfin, les rats. Et quels sont les... Tout à l'heure, on parlait de technologie numérique. Je suppose que vous utilisez le GPS. Est-ce qu'il y a d'autres technologies? Oui. Lesquelles?
Ouais, on utilise le GPS. Nous, on travaille avec Catapult.
Oui.
On travaille avec Catapult. Après, on a tout un pôle performance qui travaille dessus avec quatre préparateurs athlétiques et puis nos deux médecins. Les joueurs sont connectés en permanence sur le terrain, pas en dehors. C'est vrai que donc c'est une forme de brassière qu'ils ont et qui porte dès qu'ils mettent le pied au centre d'entraînement jusqu'à ce qu'ils en sortent et l'idée comme tu l'as expliqué tout à l'heure c'est quand même d'ajuster la charge à la fin des séances d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a une certaine charge à atteindre et si elle n'est pas suffisante il y a de la récupération enfin de du travail supplémentaire à la fin de chaque séance, tout à fait.
Pas de travail à la maison et pas de travail durant les congés, pas de suivi, pas de tracking durant ces temps.
Non, pas du tout. Après, il y a un programme spécifique qui est établi et donné via les préparateurs athlétiques. Ils échangent régulièrement par message WhatsApp sur ce qu'ils ont fait. Il y a le RPE aussi qui est très présent. Donc ça, par contre, on le suit souvent pendant le week-end. Donc, par exemple, gestion de charge, ça on le fait souvent, le rapport de forme journalier, donc la qualité du sommeil, l'humeur et la fatigue. Donc ça c'est fait et c'est suivi pendant les vacances.
Non, même c'est sur sa perception, je suppose, la durée du sommeil, la qualité du sommeil, c'est sur sa perception, c'est ça?
C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc ça c'est ce qu'on peut faire comme suivi en dehors du terrain, mais rien de plus. On n'est pas connecté en permanence avec les joueurs.
Oui, voilà. Donc ici, un intervenant qui vous demande, finalement, les joueurs peuvent déclarer ce qu'ils souhaitent.
Exactement. Après, au niveau de la fiabilité, ils peuvent déclarer ce qu'ils souhaitent, mais après, quand ils sont là au quotidien, on les voit, ils le font en direct. Il y a aussi le contact au quotidien qui fait qu'on connaît les joueurs. Ils peuvent essayer de dribbler et de jongler, on va dire, pendant un mois ou deux, le temps que fasse bien connaissance, mais au fur et à mesure du temps, la qualité des interactions fait que on arrive à rentrer dans l'échange et les retours sont honnêtes, quand même.
D'accord. Et concernant la mise en concurrence, tout à l'heure, c'est un sujet qui est souvent revenu. D'ailleurs, il y a même un préparateur physique qui me disait qu'il y avait des joueurs qui venaient à son bureau se plaindre parce que c'est du doigt par rapport à leur performance et sa réponse était que ils avaient qu'à pas finir dernier tout simplement. Comment ça se passe chez vous?
Alors il y a la performance athlétique et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent comprendre que se dire que je comprends pas toute la semaine au niveau des données athlétiques j'étais au top et je comprends pas pourquoi je ne joue pas. Et puis aussi à ce qui se produit sur le terrain, donc la performance, on va dire, de compétition. Et là, c'est une analyse. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, par exemple, pour ce joueur en bas à droite, avec des données chiffrées, c'est une analyse de la performance via la vidéo établie par l'entraîneur principal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est capable de mettre en parallèle les données athlétiques et les données de performance sportive terrain analysées par l'entraîneur. Et dans ces cas-là, s'il y a un problème et si le joueur considère qu'il y a une injustice, il vient voir l'entraîneur et l'entraîneur est capable, lui, d'expliquer pourquoi il ne prend pas le joueur et pourquoi il prend un joueur plutôt qu'un autre, en comparant ces données de performance. Ensuite, eux, les joueurs, ils n'ont pas accès à toutes ces données. Les joueurs, eux, ils ont surtout accès aux données athlétiques. Et puis, les données de performance, elles sont retranscrites sur de la vidéo, tout simplement. C'est assez simple et assez intuitif pour les joueurs. Si on commence à leur donner autant de chiffres, il y a certains joueurs qui seront capables de les comprendre et d'autres un peu moins. Par le biais de la vidéo, et on utilise l'outil Huddle, c'est comme ça qu'on est capable de leur dire, voilà les attendus, voilà ce que tu as produit. Et c'est pour ça que tu ne joues pas aujourd'hui.
Dans les séances d'entraînement, le staff a accès justement, comme on l'indiquait, est-ce qu'ils ont accès à ces données athlétiques qui sont capables également de recadrer les joueurs ou venir voir le joueur à la fin de l'entraînement?
Oui, c'est ça. Pendant les séances d'entraînement, les données sont établies en temps réel. Donc du coup, ça fait que dès la fin de la séance d'entraînement, les préparateurs athlétiques s'orientent directement vers les joueurs qui n'ont pas fait suffisamment de sprint, par exemple, pour leur dire, écoute, toi, à la fin de la séance, on va faire une session de sprint, on va faire une session de d'endurance puissance, enfin, du 15-15, du 30-30, voilà. Si, tout est analysé en temps réel.
Comment l'UBIB, c'est ma dernière question, je serai la parole également à Benoît s'il y a des questions, mais je crois qu'on a des questions également de la part des personnes qui nous suivent.
Ouais.
Comment le vivent les joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui le vivent moins bien que d'autres? C'est plus en concurrence et le fait d'être sans cesse, tout à l'heure je parlais de surveillance, sans cesse observé.
Les jeunes joueurs issus de l'académie ont du mal à s'adapter à ce type de suivi ou de surveillance parce que en fait tout ça n'est du sens que l'on met par rapport à ça, et si on n'a pas compris que le sens c'était de faire de la haute performance et d'être un footballeur professionnel et du coup c'est vrai que on peut prendre ça pour de la surveillance. Dans l'équipe professionnelle aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui sont agacés par ça parce que faut toujours leur courir après, mais une fois que ils ont pris conscience que ça faisait partie de leur métier et que pour être performant c'était utile, les joueurs en général prennent le pli assez rapidement et ça fait partie du quotidien finalement. Donc ils prennent pas ça pour du flicage entre guillemets.
Alors on a une question de Yanis sur Teams qui nous dit peut-il y avoir un partage de data entre les clubs lors d'un potentiel transfert? Est-ce que vous partagez les données entre clubs? Est-ce qu'il y a une si belle entente pour arriver à ce type de
le foot c'est un système un peu particulier. Qui n'existe dans aucun, enfin il y a on va dire le système de transfert et de et très important qui existe dans le foot qui n'existe pas dans les autres sports. Et donc en général, étant donné que les équipes qui recrutent nos joueurs dépensent de l'argent ou nous donnent de l'argent pour avoir les joueurs, on partage les données athlétiques simplement. Voilà. Par contre, jamais les données médicales ni les données sportives, hein, de performance sportive, on va dire. Mais les données athlétiques sont transmises au club qui achète entre guillemets le joueur.
Est-ce que vous avez une question ou plusieurs questions? Une question de la part d'un cake aujourd'hui.
Oui.
Bonjour. Ça fait 9 ans que vous êtes coordinateur à Lorient.
Non, ça fait 9 ans que je suis au club et ça fait une saison que je suis coordinateur.
Ok. Et avant, vous vous occupiez quel poste? Parce qu'en fait, ma question, c'était savoir comment le métier il a évolué dans les 9 ans.
D'accord. Donc, moi, je suis arrivé au FC Lorient. Au démarrage, j'étais recruteur. Recruteur pour l'académie. Ensuite, je suis devenu recruteur pour la post-formation, c'est-à-dire les joueurs entre 17 ans et 23 ans. Et ensuite, je suis passé directeur sportif adjoint et coordinateur sportif. C'est ça le parcours, l'évolution du parcours.
évolution. Ma question, c'est est-ce que des anciens coordinateurs sportifs, en fait, depuis quand ça a une place importante au FC Lorient, le data?
Le data, d'accord. Alors, la data, on y a toujours réfléchi d'un point de vue formation, parce qu'on a un entraîneur qui était directeur du centre de formation qui s'appelle Régis Lebris, issu d'un parcours universitaire qui s'y est intéressé très rapidement. Donc, au niveau de la formation, on a toujours travaillé autour de ça. Au niveau de l'équipe professionnelle, ça a commencé à prendre du corps à partir de 2017, on va dire. Et ensuite, tous les outils qu'on utilise et la data, enfin, les salariés comme le data scientist, les data analystes ou le responsable CRM data, eux ont commencé à arriver au club à partir de 2020, après le Covid. Le club a pris le virage à ce moment-là, c'est-à-dire le télétravail, ça a fait réfléchir tout le monde. Et finalement, le club s'est dit, bon, à partir de 2020, on va prendre un virage, on va développer tout ce qui est data. Mais avant, c'était dans les cordes, mais c'était pas vraiment acté au niveau de la direction de se dire on va utiliser les datas. Pourquoi ? Parce que dans le football, il y a toujours eu cette notion de feeling, de flair lié à l'expérience des joueurs ou des entraîneurs qui faisait que le secteur sportif avait du mal à être contredit par des données claires et précises. Mais maintenant, ça se professionnalise par l'intermédiaire surtout des préparateurs athlétiques. Les futurs entraîneurs, enfin les jeunes entraîneurs qui arrivent sont formés à ça. Donc, petit à petit, ça se normalise, ça s'institutionnalise.
Avant de passer aux questions sur le chat, comme Benoît, il va nous quitter bientôt, donc faire un échange plutôt transversal.
Ouais, Benoît, est-ce que tu as des questions à poser?
Merci déjà, Aziz, pour la présentation et le partage, parce que c'est quand même votre cœur de métier et votre que vous partagez avec nous, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je retrouve pas mal de choses de ce qui est fait dans certaines fédérations, alors avec des moyens très inférieurs. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas une fédération qui a le staff de FC Lorient. Et ben, je parle de fédération olympique et paralympique. Donc ça, c'était plutôt une remarque. Et moi, la question que j'avais, c'était est-ce qu'il y a un partage justement des données avec la fédération? Alors, vous en avez peut-être quelques-uns, vous en avez eu, et vous en aurez de toute façon certainement, des sportifs qui sont en équipe de France. Et sur les regroupements, parce que en termes de continuité, de préparation sportive et de risque de blessure, je pense que les regroupements en équipe de France peuvent avoir un impact important. Alors je sais que sur le rugby, ils ont réussi justement à harmoniser, ils utilisent aussi Catapulte, mais ils ont réussi à l'imposer de manière, j'imagine, concertée. Tous les clubs pro utilisent Catapulte et permettent le partage de certaines données, pas de toutes, entre ce qui est fait dans les clubs tout au long de l'année et sur les regroupements en équipe de France. Et inversement, ce qui est fait en équipe de France et le suivi des qualités athlétiques de la charge d'entraînement est repartagé avec les clubs pour qu'il y ait un vrai échange. Alors, je ne sais pas si dans le foot, c'est le cas.
Pas du tout. Pas du tout. Et y a encore un gros travail à faire au niveau de notre fédération sur le développement des partenariats avec les clubs. On est allé visiter la Fédération française de rugby au mois de novembre. On est retourné participer à un séminaire avec eux fin mai. C'est un gros point de développement au niveau de la Fédération française sur l'interaction entre la fédération et les clubs professionnels, et sur la détection des joueurs aussi, parce que aujourd'hui, c'est les clubs qui remontent entre guillemets, jusqu'à l'équipe espoir, jusqu'au U21. Ça reste en général des informations de clubs qui remontent à la fédération pour dire, nos meilleurs joueurs sont un tel. Il n'y a pas une sélection qui est faite par de la performance détectée par la Fédé à proprement parler. Donc non, il n'y a pas de transmission de données. Ils peuvent nous demander les données athlétiques des joueurs qui sont sélectionnés. Et dans ces cas-là, on les transmet. Mais il n'y a pas d'interaction avec la Fédération française de foot.
Juste, j'en reviens aussi, mais une petite question sur le temps de conservation de ces données et de la destruction. Comment vous avez défini l'archivage intermédiaire, et puis est-ce que si un sportif qui quitte, j'imagine que tout ça est contractualisé dans le cadre de son contrat professionnel, mais Ramin en parlait, est-ce qu'il y avait des échanges, ou il y avait une question dans le chat, est-ce qu'il y avait des échanges entre clubs, mais même si un sportif quitte le club, c'est quand même ses données personnelles, est-ce qu'il est en capacité de repartir avec, ou est-ce que c'est contractuellement défini qu'il peut pas accéder à ces données? Et à partir de quand elles sont détruites?
Elles sont détruites à partir du moment où le joueur quitte le club. Voilà. À partir du moment où le joueur quitte le club, nous n'avons plus accès aux données du joueur. Donc c'était le cas. Là, il y a 3 joueurs qui nous ont quittés en cours de saison. Le joueur quitte le club, les données s'arrêtent. On lui transmet ses données athlétiques, bien évidemment. Son dossier médical. Et ensuite, à la fin de la saison, tout ce qui était lié à ce joueur-là n'existe plus pour nous.
J'ai des questions. Alors, plusieurs questions. Aziz, Raphaël qui nous pose une question sur. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté durant nos échanges sur l'individualisation du travail, de la charge. Et Raphaël nous pose une question, comment faire intégrer justement toute cette partie du travail qui est individualisée à une logique plutôt collective? Et est-ce que derrière, finalement, la question qui peut être posée, c'est n'y a-t-il pas des comportements individualistes qui peuvent se développer au sein du groupe?
L'idée de notre projet, c'est toujours de jongler entre individualité et collectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on travaille avec les individualités, c'est toujours dans l'idée de servir le collectif. Ça c'est en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, le joueur arrive, on travaille avec les individualités, et puis ensuite on rebascule très vite sur de l'analyse vidéo collective pour pouvoir faire de l'entraînement collectif. Et ensuite on déjeune, les joueurs déjeunent ensemble le midi, et on rebascule sur du travail individuel l'après-midi. Donc voilà, il y a toujours un switch permanent sur individuel, collectif, et tout est lié, tout est intégré en fait, de façon à ce que à la fin, ça serve le collectif.
Seconde question qui est posée par Bochra, qui pose une question sur le lien entre le volet psychologique et la performance athlétique, et qui pose une question sur comment protéger le joueur, comment l'accompagner, et quels sont les risques associés à cette approche psychologique qui est, en tout cas, durant nos échanges, a été beaucoup moins abordée.
Sur la partie psychologique, donc j'expliquais que on a 3 personnes qui sont dédiées à ça, un responsable de méthodologie, un préparateur mental et puis un adjoint qui est vraiment psychologue. Pour le coup, on a mis en place ce qu'on appelle des parcours de développement individuel qui font que tous les 15 jours, que ce soit pour les joueurs de l'équipe professionnelle ou des joueurs de l'académie, il y a des entretiens individuels qui sont mis en place sur 2 aspects. L'aspect performance, c'est-à-dire ce qui se passe pendant la semaine à l'entraînement, et puis ce qu'ils peuvent vivre pendant la compétition, et puis sur la qualité de vie. D'ailleurs, Eva intervient dans notre établissement sur un de ces points-là, d'ailleurs. Et chaque fois, on prend en compte le bien-être du joueur ou du garçon, enfin du joueur et de l'homme. Dans le suivi psychologique, enfin dans le suivi individuel du joueur. Voilà. Donc, il y a tout ce qui peut être sur le terrain, ce qu'il y a en dehors, et chaque joueur est reçu tous les 15 jours. Quand c'est d'un point de vue plutôt préparation mentale, enfin, il y a beaucoup, enfin tout ce qui est lié au médical et à la psychologie, c'est ultra confidentiel, et il n'y a pas de transmission au staff. Et si c'est lié au parcours de développement individuel, c'est-à-dire comment faire pour devenir un meilleur joueur chaque jour, là forcément, les éléments sont transmis au staff pour pouvoir manager les joueurs sur le terrain ensuite.
Non, vous réussissez à les protéger également des critiques, des retours faits sur les réseaux sociaux.
C'est dur.
Mais pour les jeunes, je suppose, qui peuvent être très touchés.
Oui, allez-y. Donc, il y a des sessions d'information qui sont mises en place 3 fois dans la saison. Une qui est organisée par la Ligue professionnelle de football et 2 qui sont organisées en interne au club. Mais c'est difficile. Difficile pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on maîtrise pas et notamment les entourages. Parents, frères, sœurs, cousins, connaissances. Et du coup, le fait d'avoir des entretiens réguliers, individuels avec les joueurs, ça nous permet à chaque fois d'avoir une petite alerte si des choses peuvent se passer dans ce sens. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de trouver des réponses à tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Et c'est une difficulté qu'on a.
Yannis a une seconde question. Tout à l'heure, on parlait des oreillettes connectées et il nous dit, alors, on apprend également que Luis Enrique, qui est pressenti par le Saint-Germain, utilise lors des séances d'entraînement des talkie walkies qui sont accrochés à la brassière afin de pouvoir donner ses consignes en direct. Et sa question, c'est qu'est-ce que vous pensez justement de l'arrivée de ces technologies et potentiellement des oreillettes, et est-ce que ça ne pourrait pas nuire à la créativité du joueur, du sportif?
Alors en fait, les oreillettes, on les utilise, mais pas avec les joueurs, avec le staff et le staff médical. Donc ça, elles sont utilisées en séance d'entraînement et c'est utilisé en compétition. Les oreillettes avec les joueurs, enfin interagir avec les joueurs par le biais des oreillettes, pour moi c'est nuisible pour la créativité, ça c'est sûr. Nous, l'idée et la conception qu'on se fait de la performance, on travaille avec Claude Fauquet beaucoup. On a beaucoup travaillé avec Claude Fauquet depuis 8 ans sur la conception de la performance. À partir du moment où on se dit que la performance elle est humaine, les joueurs doivent être en capacité de répondre aux situations en compétition et surtout être capable de s'adapter et d'être créatif pour pouvoir trouver des solutions. Donc nous, notre rôle pendant les semaines d'entraînement, ça va être de les entraîner à donner les bonnes réponses et à trouver, et à être créatif pendant la compétition où il y a du bruit dans un stade et c'est difficile, on n'entend pas l'entraîneur de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt ça notre rôle, plutôt que de les diriger avec, on va dire, une télécommande comme à la PlayStation, pas possible.
D'autres questions?
Une dernière question, et on passera à la deuxième partie.
Bon, bonjour, c'est encore moi. Je voulais vous demander, donc, quels sont les liens que vous avez avec les sélections nationales dans lesquelles les joueurs vont pendant les trêves internationales? Est-ce au niveau des données, est-ce que vous les transmettez, ce type de choses?
Donc, j'expliquais ça tout à l'heure, on transmet les données athlétiques de nos joueurs. C'est surtout un lien entre préparateurs athlétiques des sélections et nos préparateurs athlétiques. Ensuite, l'entraîneur principal a un lien avec le sélectionneur de chaque équipe, de chaque nation, de nos joueurs pour parler des performances, on va dire sportives, ou expliquer pourquoi là il a joué, pourquoi il a joué 2 matchs, pourquoi là il a pas joué, dans les détails du temps de jeu, on va dire. Mais sinon, rien de plus. Je dis, il y a un gros travail à faire là sur l'échange qu'il peut y avoir entre les fédérations et les clubs sur le suivi des joueurs. Et on note un problème important de blessures au retour des sélections nationales. Pourquoi? Parce que l'activité en général est soit excessive ou soit trop légère. Et il n'y a pas de continuité en général avec ce qui se passe en club.
beaucoup, Aziz, pour ses retours et pour ses réponses. Merci beaucoup. Merci également,
Benoît. Merci, merci à vous.
Merci. Nous, nous allons clore cette première partie. Je renouvelle mes remerciements à Aziz, à Ramin, pour cette première partie, collecte et analyse des données.